VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du lundi 23 mai 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Jean-Roger Bion. Tout d'abord, les titres.
En Afrique du Sud, le parquet doit dire aujourd'hui s'il poursuit ou non le président Jacob Zuma pour corruption.
En Côte d'Ivoire, des catholiques du pays appellent à la libération des prisonniers détenus en rapport avec la crise post-électorale de 2010-2011.
En Irak, le premier ministre Abadi annonce le lancement des opérations de reprise de Fallujah, occupée depuis plus de deux ans par le groupe État islamique.
Les services de renseignement afghans confirment que le chef des talibans afghans, Artar Mansour, a été tué par un drone américain au Pakistan.
Le président Obama en visite de trois jours au Vietnam, des décennies après la guerre entre les États-Unis et ce pays.
Et ne manquez pas la Minute Éco ainsi que les sports et aussi une interview avec l'opposant gabonais Casimir Oyemba. Pour l'instant, le journal.
On commence par l'Afrique du Sud. Le parquet doit annoncer aujourd'hui s'il rétablit ou non quelques 800 chefs d'inculpation de corruption contre Jacob Zuma dans une affaire de contrat d'armement. Une éventualité susceptible de fragiliser encore plus le président dans un climat politique et économique plombé. Le 29 avril, la haute cour de Pretoria avait jugé irrationnelle la décision du parquet d'abandonner en 2009 pour vice de forme 783 charges contre l'actuel chef de l'État et estimé qu'elles devaient être revues.
Toujours en Afrique du Sud, deux étrangers ont été tués et huit blessés dimanche lors d'incidents entre Zimbabwéens et des ressortissants du Lesotho en marge d'un match de football dans un bidonville de la banlieue de Pretoria, a annoncé aujourd'hui la police. En 2008 et 2015, des violences xénophobes perpétrées contre des émigrés africains, accusés par des Sud-Africains de leur prendre leur emploi, avait fait au moins 69 morts en Afrique du Sud.
En Côte d'Ivoire, appel des catholiques ivoiriens à la libération des prisonniers détenus en rapport avec la crise post-électorale de 2010-2011. La réconciliation, naturellement, exige la libération des prisonniers dans le cadre du conflit advenu dans le pays, surtout que, de ce point de vue, personne ne peut se dire innocent, a déclaré l'évêque de Kachola, Mgr Ignace Bessi Dogbo, dimanche à la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, où des dizaines de milliers de chrétiens s'étaient réunis pour le pèlerinage national lancé dans le cadre du jubilé de la miséricorde. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Nyaka Lagoke. Il est professeur d'histoire du monde et de l'Afrique à Montgomery College dans l'État du Maryland et fondateur du Revival of Pan-Africanism Forum.
Ce n'est même pas le fait que l'Église catholique demande la libération des prisonniers politiques, ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est que l'Église catholique prend à contre-pied le président de la République qui avait déclaré qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, je pense que c'est une bonne chose que l'Église catholique ait fait cette démarche. Et puis, troisièmement, je pense que les autres confessions religieuses, les imams et puis d'autres confessions, elles devraient emboîter le pas à l'Église catholique parce que la question de la réconciliation nationale ne bouge pas. Le pays est dans une sorte d'illusion de stabilité, dans une sorte d'illusion de développement. Et on a les enfants soldats de M. Alassane Dramane Ouattara, qu'on appelle les microbes qui tuent, que ce soit les partisans de M. Ouattara ou les partisans de Gbagbo, Bété, Djoula, Baoulé. Et c'est un phénomène terrible. Alors je pense que avec cette action, nous allons voir comment est-ce que le président va réagir. Et il n'a pas d'autre choix que vraiment de faire ce qu'il faut pour que les Ivoiriens puissent se parler et se réconcilier.
Nyaka Lagoke de Montgomery College aux États-Unis.
Les syndicalistes nigérians ont décidé dimanche de mettre fin à la grève générale entamée mercredi contre la hausse des prix du carburant. Ils acceptent de reprendre les négociations avec le gouvernement.
Il faut dire que les syndicalistes avaient en grande partie suspendu le débrayage la semaine dernière. La cour industrielle saisie par le ministère nigérian de la Justice avait déclaré cette grève illégale. Pour en savoir plus, Timothée Donangmaï a joint le professeur Tundonu Amosu de l'Université de l'État de Lagos.
Les syndicats ont constaté que les gens ne suivent pas et que finalement, ils ont peut-être d'autres chats à fouetter. Il faut reconnaître que depuis qu'on fait la queue, il y a beaucoup qui sont tombés malades, il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu même des incendies à domicile parce que les gens stockaient du carburant. Et cela fait quand même beaucoup de problèmes et qu'on n'aurait pas voulu continuer avec ce genre de situation.
Qu'est-ce que le gouvernement fait face à la pénurie de carburant?
Le gouvernement peut déjà libérer l'espace pour que tout le monde puisse importer s'il en a le moyen. Et ensuite, il faut vraiment penser à faire marcher à nouveau les raffineries. Parce que c'est un vrai scandale qu'un pays comme le Nigeria n'arrive pas à raffiner son pétrole, qu'il faut toujours tout emporter de l'extérieur. Et que désormais, on a décidé de saisir, comme on dit, le taureau par les cornes. Et que s'il faut passer par des moments difficiles, les gens se disent que de toute façon, ça ne va pas trop durer.
Tondonou Amosou de l'Université de l'État de Lagos.
Les gardes-côtes libyens ont intercepté quelques 850 migrants dimanche au large de la ville de Sabratha dans l'ouest de la Libye, a déclaré un porte-parole. Les migrants venaient de plusieurs pays d'Afrique. Parmi eux figuraient 69 femmes et 11 enfants. Ils voyageaient à bord de canots pneumatiques.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a été accueilli aujourd'hui à Hanoï par son homologue vietnamien Tran Dai Quang au palais présidentiel, des décennies après la fin de la guerre entre les États-Unis et le Vietnam.
Notre venue est le symbole du renforcement des liens que nous avons tissés au cours des dernières décennies, a déclaré M. Obama lors d'une rencontre avec M. Quang. Après sa visite de 3 jours, Barack Obama se rendra au Japon. Il sera le premier président américain en exercice à visiter Hiroshima, où a été larguée la première bombe atomique en 1945.
Dans une interview à la chaîne de télévision publique japonaise, il a dit qu'il ne présentera pas des excuses à cette occasion. Non, car je pense qu'il est important de reconnaître qu'en pleine guerre, les dirigeants doivent prendre toutes sortes de décisions, a-t-il dit.
Le premier ministre irakien Haider al-Abadi a annoncé aujourd'hui le lancement d'une opération militaire pour reprendre au groupe djihadiste État islamique la ville de Fallujah, située à 50 km à l'ouest de Bagdad. La bataille pour reprendre ce bastion djihadiste hors du contrôle du gouvernement depuis près de 2 ans et demi s'annonce difficile.
Le premier ministre Abadi a déclaré dans un communiqué « Nous commençons l'opération pour libérer Fallujah et le drapeau irakien sera hissé et flottera haut au-dessus des terres de Fallujah », a-t-il affirmé. Selon M. Abadi, des soldats, des membres des forces spéciales de la police, des milices et des tribus pro-gouvernementales vont participer aux opérations pour reprendre la ville. Cette annonce règle la question de savoir quelle devrait être la prochaine ville à être reprise des mains du groupe État islamique. Un sujet qui divisait les responsables irakiens et les forces internationales présentes sur le terrain pour combattre l'organisation djihadiste. Mossoul, la deuxième ville d'Irak, dans le nord, était la cible privilégiée par les militaires américains, mais de puissantes milices irakiennes se sont déployées autour de Fallujah pour préparer une attaque. Les forces irakiennes ont préparé le terrain pour la reprise de Mossoul, mais elles progressent lentement et un éventuel assaut n'est pas pour tout de suite. La coalition internationale pour le I, dirigée par les États-Unis, a mené la semaine dernière 7 frappes aériennes dans la région de Fallujah. Et Bagdad a annoncé avoir bombardé la ville avec des F-16 mis à disposition par les Américains.
Les services de renseignement afghans ont confirmé dimanche la mort du chef des talibans afghans Akhtar Mansour dans un raid mené samedi par un drone américain au Pakistan. Les précisions, Timothée Donangmaï.
L'armée américaine avait de bonnes raisons de traquer et d'éliminer le mollah Mansour, a déclaré le secrétaire d'État américain John Kerry.
The United States conducted a precision airstrike
Les États-Unis ont mené une frappe aérienne précise visant le leader taliban Mollah Mansour dans une zone reculée de la région frontalière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Mansour représentait une menace imminente pour le personnel américain, les civils afghans, les forces de sécurité afghanes, a expliqué le chef de la diplomatie américaine. Des sources haut placées au sein des talibans afghans ont confirmé à l'AFP la mort de leur chef sur le sol pakistanais, ajoutant qu'une réunion du mouvement était en cours pour lui choisir un successeur. Pour sa part, le Pakistan a dénoncé la frappe aérienne américaine contre le Mollah Mansour, la qualifiant de violation de sa souveraineté et affirmant que seules des négociations pourraient amener une paix durable en Afghanistan.
À présent, la Minute Éco, Nathalie Barge.
La Russie a accordé un prêt de 25 milliards de dollars à l'Égypte pour financer un projet nucléaire. Rosatom a également signé un accord de coopération avec le Kenya, l'Ouganda et la Zambie. L'agence russe a déjà formé des conventions similaires avec le Nigeria et le Ghana pour l'utilisation du nucléaire dans les domaines de la médecine, de l'agriculture et de l'énergie. Rosatom vise en outre la participation au projet de mise en place de 9600 MW en Afrique du Sud. Au Gabon, la Société équatoriale des mines a lancé les travaux de sa première mine d'or sur le permis de Miamizès d'une superficie de 25 km², rapporte l'agence Ecofin. La SEM a noué un partenariat en 2015 avec l'entreprise chinoise Mianing. Elle espère ainsi booster sa collecte d'or qui s'élevait à 55 kg l'an dernier. Elle a pour tâche d'être l'acheteur exclusif de l'exploitation minière artisanale de l'or. C'est à cette fin qu'a été créé le comptoir gabonais de collecte de l'or, détenu à 100% par la SEM. Trois banques marocaines ont été présélectionnées pour le prix des banques africaines. Il s'agit de la Tijari Wafa Bank, la BCP et la BMCE, rapporte Financial Afrique. Les prix seront décernés en marge du colloque annuel de la Banque africaine de développement le 25 mai à Lusaka. Ces institutions sont en lice aux côtés de Guarantee Trust Bank du Nigeria, Standard Bank Group d'Afrique du Sud et la Mauritius Commercial Bank.
C'est maintenant l'heure d'espoir avec Élisée Oumpatine. Football en Europe, les finales de plusieurs coupes avaient eu lieu ce week-end.
Oui, en France, logique respectée. Le PSG a battu Marseille 4-2. En Italie, victoire de la Juve sur le Milan AC 1-0. 2-0 par contre pour le Barça face à Séville en Coupe du Roi. En Angleterre, Man U sauve sa saison en l'emportant sur Crystal Palace 2-1. Et enfin en Allemagne, le Bayern a eu chaud mais offre un beau cadeau de départ à Pep Guardiola, son entraîneur. Victoire au tir au but des Bavarois face à Borussia Dortmund. Il y avait 0-0 après les 120 minutes de jeu.
Sur le continent, deuxième tour aller des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans et l'affaire est mal engagée pour le Gabon.
Et les jeunes Panthers se sont lourdement inclinés en Angola 3-0. Grosse surprise avec la victoire de la Guinée 2-1 en Côte d'Ivoire. Le Sénégal s'impose sur le même score en Tunisie. Le Mali fait mieux à Nouakchott face à la Mauritanie 3-0. Autre victoire à l'extérieur, celle du Nigeria 1-0 au Burundi. Et même score pour l'Égypte au Rwanda. Et puis, notons le service minimum de la Gambie à domicile face au Maroc et de l'Éthiopie 2-1 face au Ghana.
Le Cameroun est allé chercher le nul à Harare face au Zimbabwe.
Un nul 0-0, pas pour autant confortant, puisque à moins d'erreurs à domicile dans 3 semaines, les Lionceaux peuvent être éliminés. Score identique entre la Namibie et l'Afrique du Sud. Bon résultat par contre pour le Lesotho et le Congo Brazza, qui sont allés tenir respectivement en échec le Mozambique et le Burkina Faso, sur le même score de 1-0. Les matchs retour sont prévus dans 3 semaines.
On passe à l'athlétisme. Pour la première fois, le prestigieux circuit Ligue de Diamant est en Afrique. La troisième étape, et c'est au Maroc.
Et la sud-africaine Caster Semenya a créé la sensation sur 800 mètres, non seulement en s'imposant, mais en réalisant la meilleure performance mondiale de la saison en 1 minute 56 secondes, 84 centièmes. Autre performance, celle de l'Éthiopienne Almaz Ayana sur 5000 mètres en 14 minutes 16 secondes 31 centièmes. Notons également la victoire du jeune Kenyan Conseslus Kipruto sur 3000 mètres steeple. Contre-performance par contre pour la Nigériane Blessing au cabaret. Très attendu, la meilleure record d'Afrique sur 100 mètres a terminé à la deuxième place derrière la Jamaïcaine Elaine Thompson. Et puis sur 200 mètres masculin, l'Ivoirien Wilfried Kofi a pris la deuxième place puisque battu par le Panaméen Alonso Edouard. Kofi assure au passage les minima pour les JO.
Merci à vous, Élisée Oupatine. On termine cette page d'espoir avec la NBA, avec notamment les résultats des finales des conférences de play-off NBA disputées dimanche. Dans la conférence Ouest à Oklahoma City, Oklahoma City a battu Golden State 133-105. Oklahoma City mène donc 2-1. Et dans la conférence Est, Cleveland mène 2-1 face à Toronto.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, le départ de Moïse Katumbi pour l'Afrique du Sud a causé une véritable surprise au Katanga, dont il était le gouverneur, et dans le reste de la RDC. M. Katumbi, candidat à la présidence, qui a été inculpé jeudi dans une affaire de mercenaires étrangers, a été autorisé à quitter le pays pour être soigné à l'étranger. De Lubumbashi, reportage de Narval Mabila.
Discrètement, Moïse Katumbi quitte Lubumbashi le vendredi 21 mai aux environs de 20h heure locale à partir de l'aéroport international de Lalouano, à bord d'un avion médicalisé, accompagné de sa femme et de son médecin, direction l'Afrique du Sud. Son cercle restreint était présent à l'aéroport. Autorisé à aller se faire soigner par le procureur général de la République sur aval du président de la République, Joseph Kabila, à moins de 48 heures de son inculpation pour atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Dans une affaire de recrutement des prisonniers, mes mercenaires étrangers, où la justice lui impose le silence. Le départ de Moïse Katumbi est une surprise pour les Louchois, car les rumeurs faisaient état de son arrestation imminente et son transfert vers Kinshasa. C'est sans explication claire. Ici, les Louchois commandent chacun à sa manière, sous anonymat.
Moïse est un homme sérieux, il va revenir. Son état n'était pas possible qu'on puisse le soigner ici. Comme je ne sais pas si son médecin est en Afrique du Sud, il fallait qu'il puisse aller là-bas. C'est là où il pouvait aller le faire soigner. Je suis contente de cette décision parce qu'il va revenir pour terminer ce dossier qu'il a commencé. Il ne peut pas fuir.
Je suis très content d'abord parce qu'on vient de le libérer pour aller suivre ses soins médicaux. Mais bon, j'aimerais assez qu'il puisse encore rentrer ici pour qu'on termine avec le procès qui est en cours.
Lui parle à l'exil, il sait quoi ce qu'il avait fait. S'il n'a pas de problème, il va fuir. Tu n'as pas de problème, tu viens. S'il fuit déjà maintenant, il sait ce qu'il avait fait. S'il fuit, il sait ce qu'il avait fait, il l'avait préparé. Parce qu'il y a ceux qui sont au cachot. Soi-disant le... Lewis,
la décision qu'on lisait sur les nets et autres, et les propositions qu'on nous avait faites, on avait vite compris qu'il allait vraiment se déplacer pour le soin. Et là, bon, c'est juste quelque chose qui est monté pur et simple.
D'après mon avis, c'est que moi je pense qu'il avait appelé juste les messieurs pour lui dire, si tu dois rester ici, on doit te coffrer, alors tu es libre de partir. Parce que si tu devais partir normalement, les gens allaient soupçonner d'une autre façon, c'est la politique. Alors il faudrait monter quelque chose pour dire qu'il aille se faire soigner et une façon de le faire évacuer calmement sans que les gens ne se soulèvent.
Avec la politique actuelle, je ne pense pas. D'après moi, je ne pense pas qu'il pourra revenir maintenant.
Comme il y a la démagogie dans la politique, c'est un démagogue. Pour cela, il s'est fait un faux malade et il est parti.
Les dossiers de Moïse Katumbi n'est pas terminé. Ses avocats conseillers séjournent déjà à Kinshasa pour poursuivre la procédure. Moïse Katumbi est soigné à Johannesburg. Reviendra ou ne reviendra pas? Est-il forcé en exil? Toutes ces questions sont restées sans réponse à l'heure d'une grande marche du 26 mai. Lubumbashi, Narval Mabila, VOA Afrique.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Eh bien, à moins de 4 mois de l'élection présidentielle au Gabon, les différents cadres de l'opposition ne cessent de se mobiliser avec un objectif commun, celui de barrer la route à Ali Bongo et un second mandat. Parmi eux, Casimir Oyemba, ancien premier ministre d'Omar Bongo Ondimba. Il est une deuxième fois en lice après un abandon en 2009. Au micro de Tatiana Mosso, Casimir Oyemba réitère son appel au président gabonais l'ONU pour un dialogue national et revient sur le débat au sujet de la légitimité de ce dernier à se représenter.
Oui, j'irai jusqu'au bout cette fois-ci. Si mon parti, l'Union nationale, décidait à son congrès extraordinaire qui se tiendra en principe à la fin de ce mois, de me choisir. La deuxième étape, c'est au sein du front de l'opposition pour l'alternance. Si à cette seconde étape, je suis également retenu, à ce moment-là, je serai candidat.
Y a-t-il une motivation différente par rapport à 2009 ?
En 2009, ma motivation principale était que le pays venait d'être privé du président Omar Bongo. Donc je considérais qu'il y avait comme une sorte de vide un peu qui se créait à la tête de mon pays. Cette fois-ci, c'est le constat de la mauvaise gouvernance de mon pays depuis que M. Ali Bongo Ondimba en tient les rênes.
Presque tous les ténors de l'opposition sortent de l'arrière des Bongo. Jean Ping, Jean Yingdong ou d'autres que l'on peut citer. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus ?
Certains de ceux que vous avez cités ont été des soutiens en 2009 de M. Ali Bongo Ondimba. Finalement, aujourd'hui, ils m'ont rejoint. Je suis resté constant avec l'appréciation de la situation de mon pays aujourd'hui.
Cette problématique d'une élection à un tour, comment est-ce que vous percevez ça ?
Les élections n'ont pas toujours été à un tour au Gabon. C'est à l'occasion d'une révision constitutionnelle ultérieure qu'elles sont devenues à un tour. Le parti auquel j'appartiens, l'Union nationale, demande depuis longtemps l'instauration d'un dialogue national. Notre demande, c'est de revenir aux deux tours de scrutin. Nous avons aussi une demande concernant la limitation du nombre des mandats présidentiels à deux au maximum. Le pouvoir n'a jamais accepté ce dialogue. Nous sommes pour la promotion d'une candidature unique de l'opposition sans nous dissimuler les difficultés de l'opération.
On va revenir sur cet article 10 et toute cette polémique autour. Quelle est votre position par rapport à ça ?
L'article 10 de la Constitution dit ceci. Pour être candidat à la présidence de la République gabonaise, il faut être gabonais bien sûr, mais il ne faut pas avoir acquis la nationalité gabonaise. Ça veut donc dire qu'il faut être gabonais de naissance. Le problème qui se pose, c'est que depuis 2009, M. Ali Bongo Ondimba n'arrive pas à produire un acte de naissance établissant, prouvant qu'il est gabonais de naissance. Il faut appliquer la Constitution, donc il ne doit pas pouvoir se présenter aux élections présidentielles. Alors, c'est la Constitution qui dit ça.
C'était l'ancien Premier ministre gabonais Casimir Oyemba.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Burkina Faso, élections municipales hier, des élections dites de proximité qui, selon notre correspondant sur place, ont été marquées par des incidents ayant entraîné l'annulation des votes dans trois communes. De Ouagadougou, reportage de Zoumana Wonogo.
Bureau de vote cherche électeurs et dans cette rareté d'électeurs, nous avons trouvé Mme Adia Tapsoba. Elle nous explique l'importance des maires.
Nous, on veut des maires qui vont travailler pour leur commune. Il y a, par exemple, au niveau de la Padoue ici, l'eau qui rentre dans les cours quand il pleut. Bon, les routes, là, vraiment, ne sont pas ça. Il faut que maintenant, là, chacun mette vraiment le paquet.
Comment expliquer ce manque d'engouement des électeurs dans des élections de proximité ? Suivant l'avis de Alidou Ouédraogo, il est le président de la CODEL, la Convention des organisations de la société civile pour l'observation des élections.
Il y a 85 partis politiques qui participent à ces élections. C'est encore très nombreux. Maintenant qu'il n'y ait pas d'engouement, ça c'est leur faute. Il faut qu'ils s'impliquent, il faut qu'ils expliquent leur programme de société, ce qu'ils peuvent faire pour les villages, les quartiers, les régions. C'est autant d'opportunités qui peuvent sortir les Burkinabés, leur précarité. Mais si un parti n'a pas de programme politique, qu'est-ce que vous voulez ? Il va comme au marché, comme au champ, il ne peut pas réussir.
Ce rôle important des maires explique-t-il les incidents qui ont témaillé l'avant et le pendant de ces élections, suivant ce qu'en dit le président du FASO, Roch Marc-Christian Kabouré.
Nous avons quand même franchi un peu le Rubicon. Quand on voit que certains démembrements de la CENI ont été attaqués, brûlés, déchirés des papiers, je trouve que cela montre un état que nous devons vraiment arrêter.
Nous avons vu dans les bureaux de la CODEL l'ambassadeur des États-Unis, Tulinabo Mushengi. Nous lui avons demandé son avis sur ces élections municipales.
J'ai observé un dispositif assez bien géré, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde. Les bureaux que j'ai visités, il n'y avait pas d'irrégularité. Comme vous le savez, nous déplorons bien sûr les incidents qui se sont passés.
Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition, tout en saluant l'organisation de ces élections, célèbre contre les incidents qui l'ont émaillé. On écoute Zéphirin Diabré.
Malheureusement, dans certaines communes du Burkina, le vote n'aura pas lieu. Malheureusement, nous constatons que ce sont les communes où le MPP n'a pas été capable de déposer un dossier, qu'il y a eu tout un tas de manigances pour être amené à reporter l'élection. Ça, c'est grave et c'est très dangereux. Et c'est même peut-être donner une prime à l'incivisme.
Pour le président de la CENI, il faut ici et maintenant un sursaut d'orgueil des partis politiques, car il y a péril en la demeure. Suivant maître Barthélémy Kéry.
La démocratie aujourd'hui est en péril dans notre pays. Si on peut aller brûler à Broum Broum parce qu'on ne veut pas les élections, ça veut dire que demain, n'importe qui peut aller brûler n'importe où s'il ne veut pas d'élections. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc les partis politiques doivent se lever, ils doivent avoir un sursaut vraiment démocratique.
Zoumana Bounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, Burkina Faso, Ouagadougou, sur 102.4 FM.
Du 6 au 8 septembre prochain, plus de 200 jeunes venus des 15 pays de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, vont débattre de la question de l'immigration clandestine. Le sommet des jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest, dont le lancement a été lancé vendredi à Lomé, a été annoncé donc vendredi à Lomé, aura à faire des propositions afin de maintenir les jeunes en Afrique. Reportage de notre correspondante à Lomé, Kay Lawson.
Ils sont des milliers d'Africains à se retrouver chaque semaine dans la ville nigérienne d'Agadez pour tenter l'aventure de la traversée de la mer dans le but de rejoindre les côtes européennes. Vu l'ampleur de l'immigration clandestine durant l'année 2015, des jeunes de l'Afrique de l'Ouest ont pris la décision d'y consacrer la deuxième édition du West African Young Leaders Summit Wales. Le sommet qui se déroulera en septembre prochain à Lomé va mener des réflexions sur des initiatives à prendre afin de décourager les jeunes à prendre la mer. Arma Kodjo, coordonnateur général de Wales.
Le Wales est en quelque sorte un outil de développement pour aider la jeunesse africaine à s'en sortir. Cette année, nous sommes à Lomé pour penser à l'immigration clandestine et maintenir la jeunesse africaine dans leur pays. Pourquoi partir juste en aventure sans aucun projet? Et donc, nous allons réfléchir au cours du sommet de Lomé aux différentes alternatives qui partent nécessairement par l'entrepreneuriat et la création de richesses, histoire de garder la jeunesse en Afrique.
Une jeunesse à la mer, quelle alternative pour une sortie de crise? C'est le thème du sommet des jeunes leaders de l'Afrique de l'Ouest. Pour le président de Wales Togo, il y a nécessité de discuter de l'immigration clandestine sur le continent africain. Et l'homme
Et donc aujourd'hui, 220 jeunes leaders de 15 pays d'Afrique de l'Ouest se réunissent pour lancer le débat sur l'immigration clandestine et pour donner des alternatives à ces jeunes qui vont demain être des modèles de réussite sur le continent africain.
La rencontre des jeunes se tiendra à quelques semaines du sommet extraordinaire de l'Union africaine sur la sécurité et la sûreté maritime. Comme principale cause de l'immigration clandestine, Wales pointe du doigt la pauvreté, mais souligne qu'elle n'est pas une fatalité. Des jeunes peuvent se tourner vers des secteurs porteurs de richesses, au rang desquels l'agriculture, estime Sonia Hundekpon, secrétaire générale de la coordination internationale de Wales.
Le secteur agricole est un secteur pourvoyeur d'emplois. Il est important que les jeunes puissent investir dans ce secteur parce qu'à l'extérieur, il n'y a rien de promettant. On peut se mettre dans le volet de l'ananas, de l'acajou et produire chez nous maintenant, pouvoir exporter. C'est sûr qu'il y aura d'avenir à Dieu.
Toutefois, ces jeunes indiquent que les gouvernements africains doivent consentir plus d'efforts pour améliorer le climat des affaires avec une politique fiscale mieux adaptée aux jeunes entrepreneurs. Kay Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 31. 40, vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. C'est tout pour cette édition matinale. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et à Michel Joseph pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.